France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Près de 300 millions d'élèves dans le monde privés de classe. Voilà aujourd'hui l'une des principales conséquences de la propagation de l'épidémie de coronavirus sur la planète. Nous nous rendrons en Italie où la fermeture sans précédent de tous les établissements scolaires annoncés hier s'applique dès aujourd'hui.
Alors que la menace d'un conflit direct plane toujours entre la Russie et la Turquie sur le sol syrien, le président Recep Tayyip Erdogan est à Moscou aujourd'hui pour y rencontrer son homologue Vladimir Poutine.
En France, un train à grande vitesse reliant la capitale a déraillé ce matin une trentaine de kilomètres au nord de Strasbourg, faisant une vingtaine de blessés, une sortie de voie certainement due à un glissement de terrain.
Et dans votre journal également, Thomas Cluzel, les chercheurs qui sont appelés à la grève aujourd'hui.
Oui, point d'orgue d'une mobilisation démarrée en janvier dernier contre une future loi dans laquelle collectifs et syndicats voient se profiler davantage de précarité et des crédits en berne. Enfin, comme chaque jeudi, l'invité politique de la rédaction dans une vingtaine de minutes aujourd'hui, Valérie Gomez-Bassac, députée du Var et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
C'est un esprit atypique que nous recevons aujourd'hui. Il aime bien aller creuser les concepts, chercher derrière les mots. Le philosophe québécois Alain Deneau vient de se lancer dans un feuilleton théorique avec une série de petits livres au nombre de 6 publiés chez Lux Éditions, où il rend le concept d'économie à ceux qui en ont été dépossédés, nous invitant à dire et donc à penser le monde autrement.
Merci et à tout à l'heure. 94 810 personnes contaminées, dont 3246 sont mortes dans 81 pays et territoires, et notamment en Suisse, où un premier décès a été enregistré ce matin. L'épidémie de coronavirus qui affecte dorénavant tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, continue d'affoler la planète. Provision de masques, annulation en rafale de tout événement ou rassemblement susceptible de propager la maladie. Mesure inédite. Tous les pays infectés dressent chacun à leur tour les remparts qu'ils estiment les plus efficaces devant la propagation du virus. En Corée du Sud, deuxième plus gros foyer de contamination après la Chine, les vacances ont été prolongées de 3 semaines dans les écoles et les crèches. En Iran, les établissements scolaires ont également été fermés. Idem pour les écoles primaires de New Delhi de son côté. Et après la fermeture des écoles, le gouvernement japonais entend lui passer désormais à la vitesse supérieure et envisagerait de faire voter un amendement à une loi en vue de décréter l'état d'urgence, une mesure qui permettrait concrètement aux autorités d'instaurer un couvre-feu ou d'imposer des restrictions sur les réunions dans les établissements publics. Enfin, en Italie, pays européen le plus concerné par l'épidémie où le seuil des 100 morts a été franchi, le gouvernement s'est résolu à son tour hier donc à fermer l'ensemble des établissements scolaires et universitaire jusqu'au 15 mars. Bruce de Galzin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Rome. Alors, cette décision soudaine, sinon brutale, de la veille pour le lendemain de fermer donc toutes les écoles a immédiatement provoqué nombre de réactions dans la péninsule et en l'occurrence, Bruce, essentiellement des critiques d'ailleurs.
Eh oui, et les plus intéressantes proviennent des experts scientifiques qui conseillent le chef du gouvernement. Ils n'étaient pas tous favorables à la fermeture pendant 10 jours des écoles et universités. Le Corriere della Sera cite par exemple Walter Ricciardi, ancien président de l'Institut supérieur de la santé, aujourd'hui expert italien auprès de l'Organisation mondiale de la santé, qui juge la mesure inutile. Plusieurs experts que consulte Giuseppe Conte considèrent cette fermeture inutile dans les régions où il y a très peu de cas, notamment dans le sud, et ils la considèrent inefficace dans les régions où il y a déjà des cas, car 10 jours sans école, eh bien c'est trop peu. Hier, le gouvernement envisageait jusqu'à 1 mois, certains scientifiques 2, car le problème, c'est qu'aucune preuve scientifique n'existe pour affirmer qu'un virus peut être contenu si les enfants et les jeunes ne le transmettent pas pendant 10 jours. Les défenseurs de cette mesure expliquent, eux, que l'on ne peut pas encore avoir de preuves scientifiques concernant une épidémie connue depuis 2 mois seulement.
Et puis, outre donc ces critiques, Bruce, on imagine également toutes les difficultés que cela impose désormais aux familles. Comment vont-elles tout simplement pouvoir s'organiser? Est-ce que des mesures d'aide ont été prévues?
Ah bien, pour s'organiser en Italie, on compte surtout sur la famille. Hein. Les parents d'élèves pensent d'abord à leurs propres parents. Et vous savez qu'ici, la politique familiale, c'est surtout la solidarité familiale. Dans les 3/4 des cas, ce sont les grands-parents qui gardent les petits-enfants, lorsqu'en France, ce sont les crèches et les assistantes familiales. Sauf que voilà, dans les mesures adoptées hier, eh bien, des personnes âgées, alors au-delà de 75 ans, hein, sont appelées à rester chez elles. Alors bien sûr, le gouvernement travaille à une solution. Des aides financières en fonction du revenu sont en ou bien un congé parental exceptionnel pour l'un des deux parents. Mais il faudra financer tout cela.
Merci Bruce de Galzin en direct de Rome. S'agissant de la France à présent, le pays compte désormais 285 cas confirmés de contamination, soit une progression de 73 cas en seulement 24 heures. Le nombre de 4 décès reste, lui, inchangé. Et puis, 15 patients dans un état grave sont actuellement en réanimation. Alors, pour l'heure, une bonne centaine d'écoles, collèges, lycées restent fermés, essentiellement dans l'Oise et le Morbihan, c'est-à-dire les deux principaux foyers de cas groupés. Notons par ailleurs que les restrictions collectives décidées le week-end dernier n'ont pas changé. Les rassemblements de plus de 5000 personnes dans des espaces confinés notamment reste interdit. De nouvelles annulations d'événements ont également été annoncées, en particulier le deuxième plus grand événement mondial dédié aux professionnels de la télévision, prévu à la fin du mois à Cannes. En revanche, le report des municipales n'est, lui, toujours pas à l'ordre du jour. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Une trentaine de chercheurs sont attendus aujourd'hui à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron et de plusieurs ministres du gouvernement ainsi que des représentants d'élus locaux, manière donc pour l'exécutif de continuer d'afficher sa mobilisation. Et il devrait notamment, Tara, être question de savoir s'il convient aujourd'hui de passer au fameux stade 3. De quoi s'agit-il ?
Au stade 3, le virus circule activement dans la population. La transmission n'est plus limitée à quelques foyers. L'objectif n'est donc plus de freiner l'épidémie, mais de prendre en charge au mieux les malades et de protéger les plus vulnérables. La conséquence un peu paradoxale de ce stade 3 est que les mesures de confinement sont moins préconisées, comme l'expliquait hier la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye au micro de France Inter.
On ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Je comprends vraiment que ce soit compliqué à concevoir qu'il y ait des phases où on contraigne les choses, c'est le cas de la phase 2, pour éviter la propagation. Mais quand on sera, si nous basculons malheureusement dans le stade 3, c'est-à-dire une épidémie qui circule sur tout le territoire, on ne va pas arrêter la vie de la France. Ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que les 20% de malades les plus fragiles, qui ont les formes les plus sévères, soient bien soignés. Ça s'appelle atténuer les effets de l'épidémie. Là, on laisse les gens vivre, mais on prend la précaution pour que les plus fragiles soient les mieux protégés.
Ce système, ce stade 3, impliquerait que tout le système sanitaire se mobilise. Les hôpitaux, même en dehors des établissements de référence, recensent alors dans chaque service les hospitalisations qui peuvent être différées sans danger, pour connaître l'ampleur des places éventuellement disponibles. Les médecins de ville sont aussi en première ligne à ce stade pour assurer une prise en charge ambulatoire des patients qui resteront à domicile tant que leur état ne se dégrade pas. Toutes ces mesures sont théoriques, insiste la Direction générale de la Santé. C'est un cadre qui évolue en fonction de l'épidémie et de sa virulence. C'est au gouvernement de décréter le passage en stade 3. Et en attendant, les autorités insistent sur les gestes barrières en rappelant que désormais, il ne faut vraiment plus se serrer la main ni se faire la bise.
Merci Tara Schlegel. Un TGV parti de Strasbourg à destination de Paris avec 348 passagers à bord a déraillé ce matin dans le Bas-Rhin. On parle de 22 blessés, mais aucun dans un état d'urgence absolu, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps. Le pronostic vital du conducteur n'est plus engagé. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors pour être tout à fait précis, Hakim, la SNCF ne parle pas de déraillement, mais d'une sortie de voie due à un glissement de terrain très important.
Oui, un glissement qui aurait pu être provoqué par les fortes pluies ces derniers jours. La tranchée provoquée par l'éboulement est impressionnante. Elle s'étend sur près de 100 mètres. Quant au tronçon sur lequel a eu lieu l'accident, c'est une voie TGV dédiée qui date il y a à peine 10 ans, avec des remblais pour renforcer la ligne afin que les TGV puissent rouler à leur vitesse de croisière, soit 320 km/h. Le dispositif est même prévu pour supporter les vitesses jusqu'à 400 km/h, nous a expliqué les SNCF que nous avons contacté ce matin. C'est notamment cette partie de la ligne qui permet désormais de relier Paris à Strasbourg en moins de 2 heures. De leur côté, les syndicats ne veulent pas pour l'instant entrer dans la polémique et préfèrent attendre les premiers résultats de l'enquête. Mais dans un communiqué publié ce matin, il y a quelques minutes même, Sudrail appelle à vérifier tous les talus et les bords de voie et dénonce le manque de personnel et les suppressions d'effectifs ces dernières années, ainsi que la politique d'externalisation des métiers de l'infrastructure du réseau ferroviaire. Enfin, sachez que le trafic TGV n'est pas interrompu entre Paris et Strasbourg. Par contre, comme les trains doivent passer par les lignes classiques, les temps de parcours peuvent être rallongés.
Merci Hakim Kasmi. Un nouvel appel à la grève aujourd'hui partout en France. Alors cette fois-ci, il ne sera pas question du projet de réforme des retraites, mais d'une future loi de programmation pluriannuelle annoncée il y a un an maintenant par Édouard Philippe, celle concernant la recherche. Et même si le ministère n'a fourni jusqu'à présent aucun projet précis aux organisations syndicales, les bribes de textes qui circulent font déjà craindre aux partenaires sociaux non seulement des crédits en berne, mais aussi une plus grande précarisation du métier de chercheur. Enfin, autre point de crispation, la revalorisation des rémunérations. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour.
Seule véritable certitude en réalité sur ce dossier, Anne-Laure, le mouvement d'aujourd'hui s'annonce d'ores et déjà massif.
Ce sont en effet plus d'une centaine d'universités et écoles dont les membres ont rejoint le mouvement, plusieurs dizaines également de collectifs, de précaires, de nombreuses revues scientifiques et sociétés savantes et même des évaluatrices et évaluateurs de l'HCERS chargés d'évaluer les performances des universités. Ces enseignants, chercheurs mais aussi étudiants se mobilisent contre un texte qui ne dit pas encore son nom, mais dont ils craignent le pire, et notamment l'aggravation de la baisse des financements pérennes et son corollaire, la précarisation. Le nombre d'enseignants-chercheurs précaires a explosé ces dernières années et ça n'est pas bon signe. Écoutez Johanna Siméan, politiste à l'École normale supérieure, membre du collectif ROG ESR.
Elle impacte directement les vies des précaires, on ne le dira jamais assez. Moi j'avais un collègue de l'université d'Evry qui me disait le département de sociaux, c'est 10 titulaires, 50 précaires. Donc faut voir ce que c'est. Ça veut dire que ça fabrique de la vulnérabilité à tous les niveaux. Ça aggrave plein de risques, le harcèlement, moral, sexuel également. Ça veut dire que ça obère la qualité de la recherche, parce qu'un précaire c'est quelqu'un qui va être dépendant de qui pourra éventuellement lui trouver un financement, etc. Donc ça ne crée pas les conditions de l'autonomie scientifique. Et puis les précaires, c'est ceux qui sont en bout de chaîne, alors même que c'est les premiers au contact des étudiants. C'est eux qui vont porter la discipline alors qu'ils sont sous pression et qui ne pourront pas se défendre contre une partie de ce qu'on leur demande. Et ça crée toutes les conditions d'une mauvaise science par ailleurs.
On estime en effet que 130 000 vacataires payés en dessous du SMIC horaire assurent plus du tiers des cours à l'université. Titulariser toutes ces personnes, c'est l'une des demandes des enseignants-chercheurs mobilisés qui craignent que le développement en outre du système de financement par projet prévu par la future loi ne nuise à une recherche autonome en général et à la recherche fondamentale en particulier.
Merci Anne-Laure Chouin. Il y avait déjà le jour du dépassement, date à laquelle l'humanité aura consommé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. En l'occurrence, ce sera le 29 juillet prochain. Et puis, il y a désormais le jour du dérèglement, fixé lui à aujourd'hui, jeudi 5 mars, ou quand en à peine plus de deux mois. La France a donc d'ores et déjà émis tous les gaz à effet de serre qu'elle pourrait rejeter en une année, si toutefois elle respectait l'objectif de neutralité carbone qu'elle s'est fixé pour 2050. Enfin, et pour ne pas s'arrêter en si mauvais chemin, on a appris que l'hiver 2019-2020, s'étendant du mois de décembre à février, a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Des corps de victimes enveloppés d'épaisses couvertures et un secouriste portant le cadavre d'une petite fille à la bouche encore remplie de débris. Voilà aujourd'hui encore les images sanglantes de la guerre bien réelle en cours à Idleb en Syrie. Au moins 15 civils au total ont péri ce matin dans des frappes aériennes russes, un bilan qui risque de s'aggraver dans les prochaines heures, compte tenu de l'état critique de nombreux blessés. Depuis le mois de décembre, le régime de Bachar el-Assad, appuyé par Moscou, mène, vous le savez, une vaste offensive contre la région d'Idleb, ultime bastion contrôlée tout à la fois par les djihadistes, mais aussi les derniers insurgés de la contestation contre le bourreau de Damas. Parallèlement, et en soutien justement à ces rebelles, la Turquie a, elle, non seulement envoyé des milliers de combattants sur place, mais également lancé à son tour une campagne massive de bombardement pour tenter donc de faire plier Damas et son allié russe. Ainsi, par exemple, que des dizaines de drones armés sillonnent désormais les airs au-dessus d'Idleb. Et pour cause, Nathalie Hernandez, puisqu'Ankara est aujourd'hui l'un des principaux fabricants de drones dans le monde.
Depuis une dizaine d'années, la Turquie s'est lancée dans la fabrication de drones, histoire d'être indépendante, surtout par rapport aux États-Unis. Drones de reconnaissance d'abord, puis armés avec le Bayraktar TB2, 5 millions de dollars pièce, fabriqué en un mois par la compagnie du gendre du président Erdogan. L'armée en possède une centaine, capable de voler pendant 24 heures avec une charge de plus de 50 kilos. Le TB2 peut, même s'il a des limites technologiques, causer beaucoup de dégâts, explique Hassan Majed, fondateur de DNS Consulting, spécialiste du Moyen-Orient. Ankara élimine ainsi des combattants kurdes depuis 2016 et depuis une semaine, ses drones frappent durement la Syrie.
Les frappes conduites par les drones DB2 pendant plus de 24 heures ont causé d'importants dégâts et d'importantes pertes matérielles et humaines parmi donc les soldats syriens et ainsi que leurs alliés. Si ces drones ont pu assurer ce qu'on appelle la suprématie aérienne, c'est parce que l'autre côté, l'armée syrienne ne dispose pas actuellement des capacités technologiques, que ce soit en brouillage électronique ou en système antiaérien, qui permet de faire tomber ces drones.
Au sixième rang mondial, la Turquie a déjà vendu une quarantaine de TB2 au Qatar, à l'Ukraine ou encore au gouvernement libyen d'Union nationale.
Alors cette guerre en cours dans le nord-ouest de la Syrie a provoqué une véritable catastrophe humanitaire avec près d'un million de personnes déplacées vers la frontière turque, mais aussi une escalade des tensions diplomatiques entre Moscou d'un côté, allié du régime de Damas, et puis Ankara de l'autre, soutien des rebelles, au point de faire planer à présent le risque d'un affrontement direct entre les deux pays qui se sont imposés aujourd'hui comme les principaux acteurs internationaux dans ce conflit syrien. Et c'est donc pour tenter d'apaiser une situation devenue littéralement explosive que le président Recep Tayyip Erdogan est à Moscou aujourd'hui pour y rencontrer Vladimir Poutine. Ou quant au cynisme du maître d'Ankara qui, en décidant récemment de rediriger les flux de réfugiés syriens vers l'Europe, ne mène pas seulement une politique de circonstance visant à faire oublier le probable échec de sa stratégie à Idlib, mais aussi à se protéger contre son propre affaiblissement interne en flattant une opinion hostile aux migrants, devrait répondre aujourd'hui une autre stratégie tout aussi grossière, celle qui vise à rappeler à son pire ennemi militaire qu'il est aussi son meilleur allié en affaires. Claude Brouillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Moscou. Alors peut-être pour commencer, Claude, peut-on rappeler par exemple qu'il y a encore deux mois à peine, les deux hommes avaient officiellement inauguré le gazoduc censé acheminer en Europe via la Turquie le gaz extrait de Russie.
Alors effectivement, il y a eu l'épisode très médiatisé de part et d'autre de l'inauguration du gazoduc Nord Stream, qui va donc permettre à la Russie d'acheminer son gaz vers l'Europe du Sud. Mais on pourrait parler également de la livraison des missiles russes S-400 que les Turcs, donc pourtant membres de l'OTAN, ont préféré aux missiles patriotes américains, ou encore de la construction par la Russie d'une centrale nucléaire très importante pour la Turquie. En clair, les liens récents développés par Recep Erdogan et Vladimir Poutine rendent sur bien des points les deux pays carrément dépendants l'un de l'autre. C'est la principale raison objective pour laquelle, sur le papier au moins, Recep Erdogan et Vladimir Poutine veulent aujourd'hui tous les deux faire baisser les tensions au nord-ouest de la Syrie, mais en poursuivant leurs objectifs militaires. Et le président russe entend bien d'ailleurs rester maître du jeu sur place, en permettant à son allié Al-Assad de continuer ses reconquêtes territoriales. Et pour justifier son soutien à Damas, eh bien, le Kremlin met régulièrement l'accent sur l'incapacité de la Turquie à faire cesser les attaques des milices syriennes contre ses bases, comme elle s'était pourtant engagée dans les accords de Sotchi en 2018. À l'inverse, Vladimir Poutine aura bien du mal à convaincre Recep Erdogan de réduire son influence dans la région d'Idlib, où les Turcs amassent donc des troupes, du matériel depuis deux mois maintenant, à l'origine selon eux pour se défendre, on le sait, contre les Kurdes, et aujourd'hui donc pour garder le contrôle de la zone, surtout contre l'armée syrienne, soutenue donc plus que jamais par la Russie.
Merci Claude Brouillot en direct de Moscou. Après le retrait hier de Michael Bloomberg de la course à la Maison Blanche, mais plus encore après que le multimilliardaire a apporté son soutien au vainqueur de la veille, l'ancien vice-président de Barack Obama, il est désormais pratiquement acquis que le prochain adversaire de Donald Trump sera un homme blanc et septuagénaire de surcroît, en l'occurrence Joe Biden ou Bernie Sanders. Reste toutefois une question, quand la sénatrice progressiste Elizabeth Warren, laquelle a priori a donc perdu toute chance de devenir la première président des États-Unis, va-t-elle se retirer de la course et surtout à qui accordera-t-elle son soutien? Comme chaque jeudi à présent, l'invité politique de la rédaction aujourd'hui, Valérie Gomez-Bassac, députée du Var et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale en duplex depuis le Palais Bourbon. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane. Une première Bonjour. Question, madame Gomez-Bassac. Après l'usage du 49-3, les débats continuent, s'agissant cette fois-ci du projet de loi organique censé être adopté d'ici la fin de la semaine, c'est-à-dire avant la trêve du haut municipal. Est-ce que vous allez réussir?
Eh bien, écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On n'assiste pas à la même obstruction que nous avions pu avoir pour la loi ordinaire. Donc, espérons que ça se passe et que voilà, que d'ici la fin de la semaine la loi organique soit adoptée et que l'on puisse continuer.
Comment est-ce que vous avez vécu les deux semaines de débat avant le déclenchement du 49-3?
C'était très difficile parce que c'est vrai que nous avons passé des heures dans l'hémicycle. Lorsque des amendements sont déposés, c'est normal, c'est le jeu démocratique et c'est une bonne chose parce que ça permet d'enrichir les textes. Mais là, nous n'en étions pas là, c'est-à-dire qu'il y avait des milliers d'amendements sur des accords, des conjonctions de coordination. Enfin, on a plus fait du français qu'autre chose, remplacé chaque année par annuellement. Donc, ce n'était pas constructif.
C'était indispensable pour vous le déclencher?
Oui, parce que ça, on voyait bien qu'on n'avançait plus. Nous étions à l'article 7 de mémoire lorsque ça a été déclenché et il en restait encore énormément, quasiment 60, un peu plus de 50 et quelques. Et bon, on voyait bien que ça n'avançait pas. Donc oui, c'était nécessaire et c'est pour ça aussi que ça a quand même été accepté.
Oui, enfin pas pour tout le monde, hein, puisque on a vu qu'il y a quelques départs. Il y en a trois qui sont partis, il y en a d'autres qui ont un petit peu rechigné. On a Stella Dupont notamment qui a pointé un échec collectif. Elle n'est pas la seule. Comment est-ce que vous imaginez la suite? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce qu'il y a une fracture au sein de ce groupe ou alors est-ce que vous allez surmonter ça?
Non, il n'y a pas de fracture au sein de notre groupe, au sein de la majorité. Nous aurions préféré un débat, c'est certain. Nous avions envie de jouer aussi notre rôle de parlementaire, mais ce n'était pas possible. C'est pour ça que même ceux qui étaient contre, finalement, se sont dit c'est la solution. Donc maintenant, le texte est reparti au Sénat, il reviendra à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas obligation d'utiliser le 49-3 en seconde lecture. On pourra peut-être à ce moment-là discuter du fond et peut-être redéposer des amendements, en tout cas essayer d'enrichir le texte et justement faire en sorte que ces débats aient lieu dans de bonnes conditions. Et je pense que l'opposition l'a entendu et l'a compris, parce que là on voit que les choses sont quand même différentes avec la loi organique, et j'espère qu'ils en auront tiré les leçons pour la loi ordinaire lors de son second passage.
Derrière les trois départs que je pointais tout à l'heure, Delphine Bagary qui a pris ses distances avec le groupe, Hubert-Julien Laferrière, Alban Gaillot, il y a manifestement l'ambition peut-être de créer un groupe supplémentaire, un neuvième groupe à l'Assemblée, un groupe de marcheurs dits de gauche. Est-ce que c'est crédible selon vous? Est-ce que c'est légitime?
C'est déjà regrettable parce que toutes ces personnes, faut pas qu'elles oublient que si elles sont là, c'est quand même grâce à Emmanuel Macron et grâce à l'investiture. Bon, maintenant, ça veut pas dire que c'est un blanc-seing non plus. Hein. On est là aussi pour avoir nos idées, essayer de les défendre. Dans un groupe, ça arrive qu'on ne soit pas tous d'accord, mais après, c'est le jeu aussi de suivre le groupe. Ces départs, pour certains, on pensait de toute façon que ça allait arriver parce qu'il y a d'autres ambitions aussi. Il y a des ambitions municipales ou d'autres ambitions, de créer un autre groupe et d'exister autrement. Je trouve ça dommage, mais d'un autre côté, il vaut mieux qu'une majorité soit là, soit solide et soit solidaire, plutôt que d'avoir des éléments qui, de toute façon, à terme, seraient partis.
Est-ce que vous craignez, on a moins de 300 députés de La République En Marche aujourd'hui, la majorité absolue est à 289, est-ce que vous craignez de perdre la majorité absolue et quelles conséquences?
Alors, est-ce qu'on craint la perdre? C'est un risque, mais bon, on se lève pas le matin en ayant peur de cela, parce que bon, déjà, il faut pas oublier que nous travaillons avec le MoDem et que ça se passe bien, donc on a quand même toujours cette majorité
qui est garantie.
Voilà, on a une sécurité. Et puis, on peut pas prendre des décisions ou agir en ayant toujours peur. Donc, nous verrons bien, mais encore une fois, le groupe est toujours là et bien solidaire.
Encore un mot sur ce 49-3. Est-ce que c'est, à votre avis, le dernier? Ou est-ce qu'on peut encore envisager, réformer, poursuivre les réformes avec cette procédure-là? Ou est-ce qu'il vaut mieux éviter?
Pour cette session, ce sera le dernier. Oui, mais après, sûr, oui. Je ne peux pas garantir qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais c'est pas une volonté d'utiliser le 49-3, encore une fois. Là, il a été utilisé parce que les manœuvres qui étaient faites en face nous ont obligés à le faire. Mais l'objectif, c'est quand même de poursuivre le débat et de continuer d'adopter des textes en pouvant faire notre travail de parlementaire.
Un autre épisode a créé un petit malaise. On va revenir sur le fait qu'il y a deux jours, le Sénat a voté une loi qui rallonge le congé d'un salarié dont l'enfant vient de décéder de 5 à 15 jours. Cette disposition, elle, avait été rejetée par la majorité à l'Assemblée le 30 janvier. Et ce qui avait suscité un certain émoi chez les marcheurs, c'est la prise de parole du président de la République qui avait demandé à sa majorité de faire preuve d'humanité. Est-ce qu'il y a eu un doute, une incompréhension à ce moment-là, et est-ce qu'elle est levée?
Oui, l'incompréhension est levée, puisque depuis nous avons vu le président de la République... il y avait une incompréhension générale, c'est-à-dire qu'il est vrai que lorsqu'on a repoussé ce texte, on l'a fait parce qu'on souhaitait qu'il y ait une vision globale par rapport à ces familles endeuillées, et que certes, il y avait la question des jours, mais pas que, c'est-à-dire qu'on voulait également mettre sur la table le fait d'accompagner mieux les familles, de les aider, que ce soit au niveau administratif, financier, etc., et on souhaitait une réforme plus globale. Bon, aujourd'hui, le texte a été enrichi, revu, il y a les jours et il y a également le reste, donc c'est une bonne chose, et il faut vraiment que les citoyens se rendent compte que lorsqu'on repousse une mesure qui est bonne aux yeux de tous, c'est parce que derrière il y a une volonté d'aller plus loin et de faire de quelque chose de plus construit et de plus adapté à une situation, et là c'était pas le cas à ce moment-là, et comme vous le dites très bien, maintenant le texte du Sénat est accepté par tous.
Donc, merci Valérie Gomez-Bassac, députée du Var et porte-parole, je le rappelle, du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, d'avoir répondu à notre invitation en duplex depuis le Palais Bourbon. Merci également à Stéphane Robert ainsi qu'à Martin Troadec pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, encore marqué par des pluies régulières et soutenues, parfois relayées par des giboulées ponctuellement orageuses. Deux départements, les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, ont par ailleurs été placés en alerte orange au vent. Quant aux températures, elles afficheront entre 8 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Emmanuel Grabet pour le prochain journal de la rédaction.